Les petites histoires cuisine et terroir racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria.
Les petites histoires de Pierre Marchessault. Bonjour Pierre.
Bonjour Christophe.
Ça va bien? Tout se passe bien?
Mais quand je vous retrouve, c'est d'un moment de bonheur.
N'exagérez pas non plus. Parce que on va parler de l'histoire de la cuisine.
Oui.
Hein? Et on va parler du service à la russe. Vous allez nous dire exactement ce qu'est ce service à la russe. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, le service à la russe, ça n'existe plus.
Non ? C'est pas forcément. Pas forcément.
Alors racontez-nous.
Alors déjà, il faut savoir qu'à cette époque, une littérature gourmande va se développer qui va permettre de beaucoup mieux communiquer avec la physiologie du goût du gastronome que fut Brillat Savarin et les œuvres d'Alexandre Balthazar ou Laurent Grimaud de la Reynière, Alexandre Dumas, qui met volontiers la main à la pâte, qui va rédiger son dictionnaire de cuisine, Charles Moncelet, qui va créer le premier journal gastronomique. Et donc, il y a donc un essor d'écriture qui va permettre aux gens de bien rentrer dans le vif du sujet. Et même les gravures montrent aussi beaucoup de choses. Les dessinateurs s'en mêlent.
Alors, ce service à la russe, concrètement, des plats en petit nombre qui sont présentés au fur et à mesure à la sortie des cuisines, c'est ça ?
Et ça ne vous rappelle rien ?
Ça me rappelle un film avec De Funès, par exemple.
Voilà. Donc, qui s'est appelé, sous l'influence de Christian Millot, La cuisine moderne, où on faisait des 21, 22, 23 plats, et les gens dégustaient des petits mets. C'était la reprise moderne de la cuisine à la russe. Et on pouvait ainsi goûter beaucoup de choses.
Mais dans le grand restaurant avec De Funès, il y a un peu de ça. Hein. Les plats arrivent et en avant. Hein.
Sauf que c'est présenté d'une façon humoristique et très critique.
Bah oui, bien sûr. Dites-moi, alors, il y a quand même une histoire sur le service à la russe autour de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Ah, bah vous savez qu'à cette époque-là, il y avait quand même des courtisans. Et c'était les premières arrivées des Russes à la cour de France, qui voulait imposer, avec l'aide de Marie-Antoinette, les différentes habitudes qu'ils avaient dans leur pays. Et ce qui ne plaisait pas du tout à Louis XVI, qui était, lui, un homme qui aimait on dit de lui qu'il aimait faire de la serrurerie, des choses comme ça, et qui était très classique. Et il trouvait désuet, alors qu'il préférait manger une bonne dinde, un bon poulet.
Oui, tout d'un coup, Marie-Antoinette voulait apporter une sorte de finesse, quelque
bien
part.
Bien sûr, une cuisine de femme. Et donc, il y a eu beaucoup d'opposition et d'éclats qui ont fait que, c'est pas un secret de savoir que l'entente entre les deux personnages n'était pas si royale que ça.
Alors justement, le service à la russe est la tradition française, la tradition culinaire française qui se renouvelle et atteint son apogée dans la cuisine avec l'arrivée du roi des cuisiniers, Antonin Carême, et sa pâtisserie faite de pièces montées extraordinaires, et dans celle de Jules Gouffet également, l'apôtre de la cuisine décorative, qui édite des récepteurs utiles aussi à la cuisine familiale bourgeoise. Tout ça à la fois se mélange, s'articule, c'est assez extraordinaire quand même.
Et ce combat
aussi, ouais.
Parce que chacun a ses apôtres, chacun a ses aficionados, et ça donne un mélange, mais un mélange constructif, puisque aujourd'hui, eh bien, on a continué dans cette voie, et on voit arriver régulièrement de nouvelles cuisines, de nouvelles choses qui sont en réalité une reprise de ce qui s'est fait dans le temps, et à travers Joseph Favre et plein d'autres, eh bien, Escoffier, qui a bien sûr magnifié tout ça, eh bien, aujourd'hui encore, la Fondation Escoffier est une des plus florissantes de France.
Moi, j'avoue qu'il y a quelque chose qui retient mon attention. Vous parlez à l'instant de Joseph Favre.
Oui.
C'est quand même, si je me rappelle bien, donc, le théoricien de cette cuisine, mais il est suisse. Donc c'est un Suisse qui théorise la cuisine, le culinaire français.
Et pourquoi pas ? Tout simplement parce que il a mis de l'ordre un peu dans tout ça. Parce que les Suisses sont des gens de rigueur. Et donc ces écrits ont fait prendre conscience à Carême, par exemple, et à d'autres, qu'il fallait mettre un peu d'eau dans notre vin. Mmh. Et bien sûr, derrière, est arrivé Auguste Escoffier, dans les années 1914, où qui, lui, a carrément imposé un style. Et ce style, il est toujours d'actualité aujourd'hui.
C'est quoi ce style ?
La base. Les bases de la cuisine.
Oui. Alors Escoffier, oui, en 1914, effectivement. Le rayonnement culturel français, là, sur le plan des idées, de la langue, de la danse, de la gastronomie, a ouvert l'Europe entière et de nombreux chefs vont se former hein, auprès des cuisiniers français. Ceux-ci n'hésitent pas à travailler, d'ailleurs, à l'étranger, hein, déjà.
Bien sûr. C'est la mondialisation, dans un premier temps, des cuisiniers du monde qui viennent en France et qui entraînent avec eux les bons cuisiniers à venir montrer leur cuisine dans leur pays.
Alors, donnez-nous des exemples, là. On en a plusieurs sous les yeux, allez-y.
Eh bien, vous avez, par exemple, un mécène qui s'appelait Guillaume II d'Allemagne et qui a sponsorisé, si l'on peut dire, Auguste Escoffier, et ouais, qui va successivement devenir le chef du Grand Hôtel de Monte-Carlo, du Grand National de Lucerne, du Savoie, du Carillon, du Carlton de Londres, des hôtels de Ritz de Paris et de New York. Il modernise la grande cuisine raffinée créée par Antoine Carême et développe le concept de brigade en rationalisant et en partisant la répartition des tâches de chacun. Le cuisinier doit être propre, ce qui n'était pas le cas, méticulé, ne buvant pas, ne fumant pas, ne criant pas. Il est le créateur, entre autres, de la pêche Melba, de la poire Belle-Hélène et de la crêpe Suzette.
Ouais.
Après, il y a eu Urbain Dubois, qui a fait quasiment toute sa carrière à l'étranger. Il laisse une œuvre écrite considérable. Georges Vicaire établit une bibliothèque majeure des livres de cuisine. Charles Durand se fait l'apôtre de la cuisine provençale.
Eh ben, écoutez, tout ça, en tout cas, on comprend mieux maintenant d'où vient notre histoire culinaire. Et c'est vrai que c'est assez passionnant. Merci pour cette nouvelle histoire, petite histoire, moi je dirais plutôt grandes histoires, d'ailleurs, de la cuisine française. Grâce à vous, Pierre Marchessault. Et on peut vous retrouver en podcast, bien sûr, sur Radio Territoria. Je vous dis à très vite. À la prochaine.
Pas à demain, mais à la prochaine.
Oui, voilà.
Les petites histoires, cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.